chance qu'on sème. Salut tout le monde, bienvenue à Une chance qu'on sème. Je m'appelle Pierre Lecoude et je suis encore et toujours en compagnie de mon ami Pierre-Antoine Gilbert. Salut PA.
Salut Pierre-Luc.
PA, aujourd'hui on présente un épisode vraiment qu'on a beaucoup aimé enregistrer, qu'on a beaucoup aimé réécouter. Moi j'ai adoré faire le montage de ça parce que je riais tout seul dans mon salon avec mes écouteurs. C'est celui avec Jean-François Lévesque.
Oui, Jean-François Lévesque, semencier de Les Jardins de l'Écoumène. Je pense que c'est quand même probablement un des semenciers artisanaux les plus connus au Québec, sinon le plus connu, j'oserais dire.
Oui, moi, c'est là que je commande mes graines, mes semences. Graines, semences. D'ailleurs, ça, c'était une question qu'on a, on a commencé l'entrevue. Est-ce qu'on dit graines, est-ce qu'on dit semences? Et puis, Jean-François a eu une réponse très colorée. Alors, c'est un... comment qu'on dit ça? C'est un balado qui est classé 18 ans et plus pour les deux premières minutes et les deux dernières minutes. Mais je suis convaincu que ça va plaire à 99% de notre auditoire.
Exact. Mais tu sais, on s'est amendé quand même parce que dans la saison 1, bon, ces jokes-là revenaient. On s'est fait traiter un peu de mononcle sur certaines plateformes. Mais n'hésitez pas à aller nous donner une meilleure note, si vous voulez, sur les différentes plateformes de diffusion, hein, si vous voulez nous encourager à continuer. Fait que je vous jure, là, cette année, on n'a pas fait exprès dans Beurre trop épais. On est un peu niaiseux, mais on s'assume. Hein? On s'assume, Pierre-Luc?
Ben, mais hein, moi, ma sœur et mon frère ont des enfants.
Oui.
Toi, tu as une sœur qui a des enfants.
Mm-hmm.
Bon, ben ça nous donne le droit de dire toutes les mononcries du monde.
pour revenir à Jean-François, là, moi, ça a été comme un retour en classe dans un cours de génétique où, encore une fois, je me suis rendu compte que j'ai retenu seulement 5 à 10 % des notions qu'on m'a enseignées. Puis je pense qu'on aurait pu starter la discussion avec lui, laisser ça aller, puis juste l'écouter parler. Donc, si on fait une saison 3, peut-être qu'on le réinvite?
Ben, c'est sûr et certain qu'on le réinvite si on fait une saison 3, mais ça va dépendre de nos auditeurs. Il faut qu'ils nous donnent des 5 étoiles puis qu'ils nous harcèlent sur les réseaux sociaux pour qu'on fasse une troisième saison.
C'est du chantage, ça non plus. Il faut évacuer ça. Là. On s'amende. Là. On est comme plus neutre. Là. Hein? On est bon.
On s'amende. Mon Dieu Seigneur, tu maîtrises la métaphore agronome plus que moi. Bon, ben c'est parti pour Jean-François Lévesque. Mais avant, la présentation de nos partenaires et commanditaires. Merci à notre partenaire principal, le Réseau des fermières et fermiers de famille, qui nous accompagne dans cette belle aventure de la saison 2 de Une chance qu'on se sent. Ben, je dis saison 2, mais en vérité, moi, ça fait des années que ma fermière de famille m'accompagne dans mon jardin. Ça fait 10 ans que j'ai un jardin, j'ai jamais réussi à faire pousser un chou-fleur. Fait que je vais voir ma fermière de famille, puis j'achète ses légumes, ils sont parfaits.
Bon, enfin une bonne raison de ne pas suivre mes conseils. Ça va te donner l'occasion de rencontrer la personne qui fait pousser tes légumes bio et locaux. Mais je suis curieux, comment t'as fait pour la trouver, ta fermière de famille?
Ben, j'ai été sur le site du Réseau des fermières et fermiers de famille, au fermiersdefamille.com. Puis là, tout de suite, il y a une carte qui me dit quels sont les membres du réseau les plus près. C'est full techno. Là. C'est la nouvelle façon d'acheter des légumes bio.
Ben, c'est pas tout à fait nouveau. La RFF soutient les maraîchères et les maraîchers depuis 25 ans. Ils sont maintenant au moins 150 fermières et fermiers de famille. De Ottawa à Moncton, en passant par le lac Saint-Jean et Matane, tu vas pouvoir te faire une salade de crevettes avec des concombres de Saint-Valérien.
C'est génial, ça, parce que ça permet aux consommateurs de se trouver un maraîcher bio et local, puis ça permet aux fermières et fermiers de rejoindre l'assiette du monde. C'est une belle histoire dans laquelle tout le monde s'aime.
Oh!
Hey, PA, j'ai découvert quelque chose de vraiment intéressant, ça s'appelle Fertifras.
What the frass?
Non, Fertifras, connais-tu ça?
Non, ça sonne comme un engrais à base de déjection d'insectes élevé par tricycle à Montréal, 100% bio, 100% local, mais non, je connais pas ça.
Mais là, tu me niaises-tu, c'est exactement ça. Ça a un RIP de 332.
NPK, PL.
OK, PA, NPK. Et 332, c'est aussi bon que 20-20-20?
Ben, c'est bien mieux comme produit. Premièrement, c'est naturel, c'est certifié biologique, c'est riche en matière organique, ça nourrit donc le sol, pas juste la plante.
Non, mais c'est quoi l'intérêt? Moi, c'est pas du sol que je veux faire pousser.
C'est la même différence que juste manger des pilules ou manger un bon repas complet. En plus, tu peux aussi en donner à tes plantes d'intérieur. Tu l'as trouvé où, ton Fertifras?
Sur le site de fertifras.com, mais je sais qu'il y en a au centre jardin proche de chez vous.
Cool.
J'ai hâte de voir la frasse que tu vas faire quand tu vas voir la grosseur de mes tomates.
Une chance qu'on sème.
Avant que ça commence, là, moi, je veux savoir, est-ce que, Jean-François, on dit « semence » ou « semence »
Moi, j'aime utiliser le terme « semence ». Puis les graines, on garde ça pour les Européens.
Ah, OK. Ah, les Européens, ils disent pas semences.
Non, parce que, vois-tu, j'ai déjà reçu un stagiaire qui venait de Belgique. Non, en fait, de Bretagne. Et il s'en venait faire le pèlerinage de la graine au Québec.
Avec son bâton.
J'ai eu exactement la même réaction que vous autres. J'ai fait « Oh! » Je dis « Il y a des secteurs sur l'île de Montréal que t'es mieux de pas fréquenter si tu fais le pèlerinage de la graine parce que tu vas découvrir des choses que t'aimerais peut-être pas. » Fait que là, il m'a répondu. Il dit « Oui, mais vous utilisez quoi? » Je dis « La semence. » Ben, il dit là, il dit « Si je dis à mes compatriotes français que je m'en vais faire le pèlerinage de la semence, il dit là, ils vont se foutre de ma gueule. » Parce qu'en France, la semence, c'est le sperme.
Fait que, dans le fond, on est baisé. On s'excuse pour nos auditeurs parce qu'on a des auditeurs en France puis en Belgique. Fait qu'on s'excuse, là, ça... éloignez les enfants, OK? C'est PG-18, cette affaire-là. Là. Puis pour les Québécois, on va dire semences, puis personne va voir, va avoir d'image. Ça va être du terreau puis une petite affaire blanche.
Fait que t'es un semencier, Jean-François, t'es pas un grainetier.
Ou un graineux.
On se définit vraiment comme un semencier.
Ah, c'est bon ça. Puis nous, on n'avait pas le choix parce qu'on a pensé à appeler le show, le podcast, Une chance qu'on graine. Ça fait plusieurs fois qu'on fait la joke, mais ça sonne toujours aussi mal à chaque fois qu'on l'a fait. Mais bonne pareil.
Bon, OK. Là, c'est quoi une semence? Peux-tu nous expliquer ça, toi qui es Jésus dans le monde de la semence? En fait, ben, Jésus, t'es pas Jésus, t'es le propriétaire et fondateur, si je ne m'abuse, de les Jardins de l'Écoumène.
Ben oui, exactement. En fait, les Jardins de l'Écoumène, c'est notre entreprise qu'on développe depuis plus d'une vingtaine d'années, puis qui effectivement, qui s'est basée sur la production des semences au jardin.
OK, bon, c'est quoi une semence, Jean-François?
Ben, écoute, d'un point de vue, si on veut, tu sais, comme morphologique, tu sais, ou physique, la semence, en fait, c'est un enveloppe. Donc, il y a un tégument, puis à l'intérieur, on retrouve des trucs comme cotylédon, embryon, tout ça. Mais la semence, en fait, cette enveloppe-là renferme d'autres choses. Renferme, en fait, un bagage génétique, une librairie, une histoire, en fait, quelque chose qui nous vient de nos ancêtres. Parce que, tu sais, il y a 10 000 ans, quand ils ont décidé de sédentariser puis de domestiquer, en fait, les animaux puis les plantes, ben ce bagage-là s'est transmis de génération en génération. Donc, c'est vraiment un livre ouvert sur, parce qu'on parle de semences à pollinisation libre, bien entendu, mais un livre ouvert, en fait, sur nos origines, sur cette domestication que l'homme a faite de la nature. Fait que pour moi, la semence, c'est ce que ça l'évoque, en fait, c'est cette transmission-là d'un savoir, parfois intuitif, parfois plus technique, mais on se transmet ça de génération en génération.
Mon Dieu!
Wow, ouais, ça met la table.
C'est passionnant.
Oui, vraiment. Puis à l'époque, ils transportaient les semences comme ça avec eux, j'imagine, entre les peuples sédentaires d'un à l'autre. Puis aujourd'hui, finalement, Jean-François, toi, tu les envoies par la poste, puis tu envoies un bagage génétique avec des millions d'individus, tout simplement par la poste. Là. C'est hallucinant quand même quand on y pense. Là.
Ben oui, puis à travers tout ça, tu sais, le rôle, en fait, dans lequel je m'attribue, c'est celui du gardien, en fait. Je me considère comme un gardien qui a l'opportunité, en fait, des voies transigées par les Jardins de l'Écoumène, puis d'être transmis, effectivement, aux gens qui vont, eux, les cultiver pour s'en nourrir ou tout simplement en apprécier, bon, toutes les qualités des plantes qu'on connaît. Mais ce rôle de gardien-là, ben écoute, pour moi, c'est ma passion, c'est ma raison d'être. C'est vraiment quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Alors, c'est ça. Fait que vous pouvez dire qu'on est des gardiens.
T'es un gardien. Est-ce que tu te vois aussi parallèlement ou en surcroît comme un créateur? Est-ce que toi, tu fais juste propager le savoir ancestral ou tu joues aussi avec ça? Est-ce que tu fais de l'hybridation des affaires de
mer? Ben, en fait, non. Ici, à l'Écoumène, pour le moment, on se consacre vraiment à essayer de maintenir les caractéristiques de ces plantes-là. Bien sûr, ils évoluent parce que la façon que nous, on les conserve dans un contexte vivant. Hein? On sait qu'il existe des banques de semences à travers le monde, dont une populaire en Norvège où on les garde là, stocké pour éventuellement aller chercher des gènes pour créer d'autres variétés. On parle de institut ou extitut. Donc, institut, nous, on les conserve de façon vivante, on les cultive d'année en année. Donc, ils vont évoluer en même temps que le climat va changer, que les conditions climatiques vont changer. Donc, c'est vraiment des semences qui on cherche à maintenir ces caractéristiques morphologiques. Hein? On appelle ça les phénotypes. Donc, une tomate rouge, une tomate jaune, ben on maintient ça. On s'assure en fait de l'intégrité génétique des variétés, mais définitivement, il évolue dans un contexte ben québécois, nordique, un contexte écoumène.
Mais tu valides ça comment? Pour t'assurer que la génétique reste pure, admettons, c'est en faisant pousser la patente ou il y a une façon de l'observer au microscope ou je sais pas trop, de faire des tests pour évaluer la pureté de l'évolution de la semence?
En fait, il faut dissocier deux choses, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle les phénotypes, mais il y a également les génotypes. Les phénotypes, c'est vraiment les caractéristiques visuelles qu'on peut observer sur nos plantes, la hauteur, la période de floraison, la grosseur des fruits. Les génotypes, en fait, font référence justement au bagage génétique que la plante possède, des milliards et des milliards de gènes dans les chromosomes qui ont la possibilité, en fait, de se manifester de différentes combinaisons, hein, selon ce que le semencier va vouloir sélectionner ou, tu sais, plutôt comme prioriser, comme caractéristique, ça, selon ce qu'il recherche. Alors, nous, on est surtout comme gardien de maintenir ces variétés-là selon les phénotypes de base. Mais dans la vraie vie, là, puis tu sais, je t'en parle à toi, mais faut pas trop en parler à tout le monde, mais ils sont pas tout à fait pareils comme ils étaient au début quand ils sont arrivés à l'écoumène il y a une dizaine d'années. Mettons que ça a changé, ils ont évolué. Tu sais, comme moi, j'ai plus tout à fait le même poids que j'avais à 20 ans. Alors, nos poivrons King of the North, mettons qu'ils ont pris du volume, sont beaucoup plus gros qu'ils l'étaient au départ parce que on a toujours préconisé la sélection des plus gros fruits et on a induit en fait cette caractéristique-là. Puis maintenant, on a vraiment des poivrons beaucoup plus gros que ce qui a été de base sélectionné il y a une trentaine d'années. Fait qu'on fait évoluer ces plantes-là malgré tout, mais on essaie de maintenir le plus possible les caractéristiques.
Wow! Est-ce que tu constates que tu as juste des améliorations dans ton phénotype ou il y a certaines espèces que, ah tiens, tu as perdu un certain aspect ou que ça avance toujours dans le bon sens, tout ça?
Ben non, effectivement, là, j'aurais pas la prétention de dire que ça va toujours dans le bon sens. Écoute, on cultive plus d'une soixantaine d'espèces, 350 variétés. Ça a pris quelques années pour me rendre compte que dans le cas des haricots, je devais pas sélectionner nécessairement les plus grosses semences parce qu'à l'origine, les haricots étaient nains. C'est l'homme qui a donné une incidence pour qu'ils deviennent grimpants. Alors, si tu choisis toujours les plus grosses semences des haricots, ils vont tendre à revenir au grimpant. Alors c'est là que Guylaine, qui est au service à la clientèle, qui reçoit un commentaire d'un client, il dit, tu sais, sur le sachet, c'est écrit nain, puis il est rendu à 3 pieds, mon haricot. Il y a quelque chose qui marche pas. D'accord. Alors, tu sais, fait que, oui, c'est quand même très empirique, là, faut l'avouer, la démarche qu'on entreprend depuis une vingtaine d'années maintenant.
On dit petite personne en passant, hein? C'est des haricots petite personne.
D'accord, merci de la précision, effectivement, je vais faire attention.
Personne de petite taille.
Ouais, des haricots de petite taille. Ouais. Jean-François, tu as parlé de pollinisation libre. Là, on entend des fois aussi le mot hybride. Si tu avais à essayer d'expliquer ça à un enfant de 8 ans, qu'est-ce que tu lui dirais?
Il parle de moi, là.
Ben, en fait, je vais tenter de le démystifier puis de le décrire de façon simple, mais je vais quand même aussi, pour vos auditeurs qui ont des connaissances en horticulture, en agronomie, qu'on se comprenne bien. Puis j'aime la question parce qu'on va juste faire un petit préambule. C'est un moine autrichien, Gregor Mendel, qui est le contemporain de Charles Darwin. Tu sais, en passant, ces deux-là, s'ils avaient fait un 5 à 7, j'aurais vraiment voulu assister à cette rencontre-là. Ça aurait été une discussion fort intéressante parce que on parle de l'hérédité, on parle de l'évolution des espèces que Charles Darwin a présenté, en fait, quand il nous a présenté ça, ça a fait changer notre vision et perception du monde, mais c'est Gregor Mendel, en fait, qui a développé il a présenté, il a compris le principe de l'hérédité. Tous les agronomes qui nous écoutent savent très bien que il y avait un cours plate qui s'appelait génétique 101, puis on voyait les trois lois de Mendel, dont la ségrégation. Alors, c'est ça.
Je m'en souviens.
Oui, tu t'en souviens, hein? Alors, nous, on part de là, en fait, parce que aller jusque dans les années 50, toutes les variétés disponibles sur le marché étaient des variétés à pollinisation libre. Donc, c'est depuis les années 50 qu'on a commencé à introduire des variétés, ce qu'on appelle les hybrides F1. Alors, je vous explique. La pollinisation libre, ça veut dire qu'à l'intérieur d'une population, donc exemple, il y aurait 100 personnes ou 100 plantes ou 100 animaux. En fait, c'est tout le principe fonctionne pour toutes les espèces. C'est-à-dire qu'il y a personne qui va intervenir pour déterminer qui va s'accoupler avec qui.
C'est la nature, le hasard.
C'est la nature, soit par les insectes, soit par le vent. Puis là, on rentrera pas dans tous les détails botaniques, mais tu sais, bon, il y a des fleurs parfaites, imparfaites. Il y en a qui ont une pollinisation croisée. Il y a des dioïques, des monoïques. Donc, il faut comprendre, en fait, la botanique quand on est semencier pour bien comprendre la sexualité des plantes. Donc, à partir du moment où on a introduit les variétés hybrides F1, ça a changé la donne, parce que ce qui caractérise les hybrides F1, c'est que eux ont été vraiment sélectionnés au niveau des individus et non au niveau des populations. Donc, on a choisi un parent A, un parent B. C'est comme si Pierre-Luc, c'est moi qui décidais avec qui t'allais t'accoupler, tu sais. Tu vois là, un peu le profil. Je pense que j'aurais bien du plaisir à trouver une partenaire, mais bon, je suis pas sûr que toi, t'apprécierais.
Hey, ça, là, c'est fou, là. Ça me rappelle certains croisements pour faire des super athlètes en Chine, où je pense que le livre des rivières pourpres, c'était ça le concept des universités élites, où ce qui mettait genre un gars, une fille, il essayait de les matcher pour faire des super individus par la suite, là. Mais ça, c'est l'inverse du wokisme. Tandis que la pollinisation libre, Jean-François, c'est super woke, ça, là. C'est tout le monde, n'importe qui, c'est le hasard qui décide. C'est hot, là.
Mais en fait, tu vois, il faut quand même dire qu'il y a des avantages du hybride F1. Parce que l'industrie aime bien avoir une certaine uniformité, standardisation. Tu sais, la boîte de carton pour transporter les tomates du Mexique au Québec a été fabriquée avant de faire pousser les tomates. Donc, il faut s'assurer que tous les fruits rentrent en petite case. Tu sais, fait qu'il y a certains avantages. Mais le principal inconvénient, c'est que l'hybride F1, si on récupère les semences, ben on n'obtiendra pas les résultats de la génération précédente. Donc, ces semences-là vont perdre toutes les caractéristiques. On appelle ça l'effet hétérosis ou la vigueur hybride. C'est que on a pris un parent A, un parent B, on les a épurés d'un point de vue génétique, puis quand on les a croisés ensemble, là, on a eu un super fruit, tout de la même hauteur, tout de la même couleur, tout de la même forme. Bref, c'est comme genre, wow, une belle révolution. Et dans les années 80-90, nos catalogues de semences ne comportaient presque uniquement de ces variétés.
C'est malade. J'ai vraiment l'impression de revivre un cours de génétique 101, mais avec un prof complètement capoté.
Et là, ce que j'entends, c'est que c'est des contraintes de l'industrie agroalimentaire, de l'industrie, admettons, de la tomate, qui ont fait en sorte que moi, dans les semences que je pouvais acheter pour mon jardin, c'est devenu standardisé comme ça. Tu sais, ça a bavé jusque du côté résidentiel, cette affaire-là.
Écoute, clairement, puis le résultat final, on le connaît, c'est les OGM, avec un empilement de gènes, puis avec toutes les conséquences que ça peut avoir aujourd'hui. Mais je ne veux pas m'embarquer là-dedans. Vous me réinviterez, on en reparlera un jour. Ce fameux chaos génétique. Là, mais les variétés à pollinisation libre ne comportent pas non plus, je veux dire, juste des avantages. Ils ont quand même certains inconvénients. Puis loin de là de prétendre que parce que c'est des variétés à pollinisation libre, ils sont exceptionnels, puis on doit les cultiver. Mais j'aimerais ça préciser un petit détail, c'est que d'un point de vue génétique, on peut parvenir presque au même résultat qu'un F1. Nous, notre saint graal, en fait, de la sélection, c'est ce qu'on appelle la super dominance. Hein? En génétique, on parle de gène dominant, gène récessif, mais la super dominance, ben, c'est qu'à l'intérieur de ta population, on a cette homogénéité-là, puis qu'on recherche au niveau du phénotype, mais avec l'avantage du génotype, ils sont un peu tous différents. Comme nous, les humains, on se ressemble tous, on a des nez, des oreilles, une bouche, des cheveux, puis il n'y a personne qui a sélectionné Pierre-Luc avec sa conjointe, là, je veux dire, ça s'est fait naturellement. Alors, donc, c'est un peu ça avec le matériel avec lequel on travaille, et on aime bien, en fait, cette approche de sélection-là, on appelle ça la sélection massale, qui nous, je dirais, tu sais, qui nous amène le défi d'avoir des populations plutôt que des individus avec cette super dominance-là, avec des caractéristiques qui nous semblent intéressantes pour le jardinier, entre autres la rusticité des plantes.
Wow. Hey, des fois, Jean-François, on va faire du pouce là-dessus, là, mais il y a des gens qui récupèrent les semences. Hey, je l'ai dit comme faux, Pierre-Luc, j'ai pas dit semences.
J'ai même pas remarqué.
Qui récupèrent les semences, mettons, d'un poivron ou une tomate d'épicerie. C'est probablement une hybride à l'origine qui a été cultivée commercialement. Fait qu'eux, ils peuvent s'attendre à un résultat, si je te comprends bien, qui peut être correct, qui peut être même meilleur, mais qui pourrait être aussi inférieur à ce qu'ils ont connu en épicerie. Je me trompe? Je t'ai-tu suivi?
Ben, oui, mais je pense que tu étais un peu trop généreux avec des meilleures semences que prévu.
OK, c'est bon. Fait que toi, tu recommandes pas ça.
Ben non, pas du tout. On perd notre temps avec ça. C'est préférable de travailler avec des lignées. Tu sais, si vous avez, vous, le goût comme jardinier de sélectionner vos semences, parce que on va se rajouter un petit détail, on n'a aucun droit à nous sur ces variétés-là. Ils appartiennent à personne en particulier, mais à tout le monde. Il n'y a pas de
royauté.
Exactement. Alors, donc, ce que vous allez utiliser comme semence à pollinisation libre, ben, vous pouvez, vous aussi, faire des essais dans vos jardins. Puis, si vous avez le goût, l'intérêt, ben, je vous recommande fortement de commencer par les tomates.
Oui.
Quelque chose de simple, quelque chose de pas compliqué, puis amusez-vous avec ça.
Cool. Hey, dans le fond, c'est ça. Le métier de semencier, toi, c'est de conserver le patrimoine puis de le revendre. Puis, hybrideur, lui, c'est de faire les croisements puis essayer de développer des nouvelles souches. Tu es à la bonne place, là?
Oui, exactement. C'est en plein ça. Okay. Le gars qui va hybrider, il va croiser. Parce que même si c'est des variétés à pollinisation libre, on pourrait, les poumènes, croiser des variétés puis essayer de développer. Mais on parle d'un travail qui va varier entre 7 ans et 12 ans.
Wow, OK. Ouais.
Ça te prend plusieurs générations là, pour que ça s'assimile, cette information-là.
Écoute, le melon d'Oka, OK, tu sais, vous connaissez tous le fromage Oka, hein?
Oui. Ouais.
Bon, mais les frères de l'abbaye, en fait, qui sont rendus maintenant à Saint-Jean-de-Mata, quand ils étaient à Oka, ben, ils ont créé une nouvelle variété de melon qui s'appelle le melon d'Oka. Ben, le frère Athénas, là, il a croisé le melon de Montréal, qui est un autre melon ancestral, avec le melon banana. Ça lui a pris 12 ans pour stabiliser les gènes à l'intérieur de la population. Fait que c'est un travail vraiment de longue haleine. Là.
Ça y a pris ce temps-là pour que, admettons, ils fassent pousser 10 plants de ça, puis ils soient tous pareils à peu près, là. Qu'il n'y en ait pas un banane qui ressorte là-dedans, genre.
Exactement. Le melon d'Oka, c'est un melon rond avec une chair verte. Le melon banana, c'est un melon qui a une forme de banane avec une chair orange. Alors, le melon d'Oka, lui, il est rond comme le melon de Montréal, mais il y a une chair orange comme le melon banana. Donc, il était capable, à chaque génération, d'éliminer, en fait, les caractères qu'il ne voulait pas conserver, puis de mettre en valeur les variétés ou les caractéristiques de ces croisements-là pour obtenir le melon d'Oka. Et on cherche après ça la super dominance, à essayer de maintenir à l'intérieur de la population ces gènes dominants-là pour qu'à chaque génération, on obtienne uniquement les caractéristiques, les nouvelles caractéristiques, en fait, du fruit.
Mais c'était quoi sa motivation, tu penses, à lui?
Ben, c'est que le melon de Montréal, là, il était très, très populaire, mais il poussait à un endroit bien précis sur l'île, c'est à l'échangeur des Caries, parce qu'il y a la falaise Saint-Jacques qui est juste au nord.
Sud.
Donc, il était. Oui, ben c'est ça. Donc, eux, ils étaient orientés sud. Puis tout là, la bouse, là, mais c'est le crottin de cheval qui était utilisé, en fait, là, pour déplacer le monde sur l'île, là, à l'époque, il n'y avait pas encore d'automobile, était entreposé là. Donc, on avait des conditions super. Sauf que le melon de Montréal ne poussait à aucun autre endroit au Québec parce qu'il y avait toutes les conditions. Fait que le frère, lui, s'est donné comme mission, créons un melon qui va être adapté pour l'ensemble du Québec.
My God.
On est dans quelle année, là?
Écoute, 1870 à peu près, là.
Fin 19e, début 20e. Quelque chose de même.
Quelque chose du genre, ouais.
Hey, mais là, à quand la tomate de l'évêque ou le melon de l'écoumène, ça va-t-il exister un jour, ça?
Ben, quand je vais... non.
Non.
ça fait pas partie de mes objectifs, mais effectivement, parce que il faut que je vous explique un petit peu où on est rendu. Tu sais, après 20 ans, on se considère comme une jeune entreprise semencière.
OK.
Puis là, on est en train de mettre en place une banque de données, une base de données pour être capable justement de mieux gérer l'évolution. Tu sais, quand on parle de 7 à 14 ans, là, tu sais, comme de suivi pour arriver à créer une nouvelle variété, ben ça prend une base de données pour justement être capable de maîtriser toutes les informations qu'on reçoit d'année en année, puis tu sais, tout suivre le protocole. On est en train, là, à l'Écoumène, de mettre en place ça. On pense que d'ici un an ou deux, on va avoir l'outil, puis oui, on va probablement se lancer dans la création peut-être d'une nouvelle variété, mais tu sais, c'est pas nécessairement une quête. Moi, je me vois vraiment comme un gardien d'un patrimoine. Tu sais, une autre petite histoire rapido, là, je veux dire, un jour, le téléphone sonne, on avait passé à la télé, la madame, elle me dit, écoute, elle dit, ma grand-mère est décédée, on a des semences de haricots, on sait pas quoi faire avec. OK, mais encore. Fait que là, elle m'envoie un courriel. Sa grand-mère a reçu ces semences-là à l'âge de 14 ans quand elle s'est mariée. Elle est morte à l'âge de 104 ans, puis elle les a cultivées jusqu'à l'âge de 95 ans. Oh, je dis là, on parle de quelque chose, là. Alors, on a une dame qui, au Québec, a cultivé pratiquement pendant 90 ans les mêmes variétés d'haricots dans son jardin, grand-maman Dinelle. Tu sais, fait que ça, c'est des affaires qui me font bien plus triper, honnêtement, que créer la tomate l'Écoumène, genre.
Malade, ça, c'est une histoire de
fou. L'as-tu dans ton catalogue, cet haricot-là?
Oui, mais il est en rupture de stock, fait que ça va on part la production, là.
Ben, c'est le seul défaut que j'ai trouvé à ta compagnie, Jean-François, là, c'est vos maudites ruptures de stock, maudite COVID. C'est-tu à cause de la COVID ou c'est parce que vous n'êtes pas à votre affaire, vous autres?
Non. Ouais, ben écoute, oui, ma gang est à son affaire. C'est la COVID, là, ça nous a propulsé, t'as même pas idée, en fait. C'est fou. Quand le premier ministre a annoncé que, tu sais, la première vague, là, de la COVID, que le Québec savait pas trop comment aller s'enligner avec les travailleurs étrangers, qu'on devait développer l'autonomie alimentaire, tabarnouche.
C'est fou.
Ça s'est vidé d'un coup.
Ah, écoute, on avait à un moment donné, là, je pense que c'était au mois de mars, on avait 8000 commandes en attente. Puis là, on gérait des courriels. Oui, ça s'en vient. Écoute, ça avait aucun bon sens.
Mais là, vous autres, vous pouvez juste. Ça vous prend au moins 6 mois pour augmenter votre volume, ces affaires-là. Ça se fait pas de même une graine?
Les graines, il y en a qui lèvent rapidement, mais effectivement, les nôtres, ils prennent du temps à produire.
Parce que c'est ça, la COVID, tu ne peux pas la prévoir d'avance. Là, elle nous a frappé en plein hiver. Toi, tu n'as pas prévu un été de stock d'avance et de doubler. Là. Mais as-tu augmenté ta production en conséquence?
Ah, tout à fait. L'année passée, on a ajouté 1 hectare supplémentaire à nos productions. On vient de faire l'acquisition de 12 hectares supplémentaires. Puis okay. Nous, on va être capable là, de suivre là, l'intérêt. Puis en même temps, on le sait, puis oui, ça va prendre... Ben, en fait, il faut développer cette autonomie alimentaire-là. Puis tout part de la semence. On s'entend que pas de semence, oui. On n'en produit pas de légumes. Donc, nous, on fait partie, en fait, je dirais, comme entreprise puis individu qui dans cette entreprise-là, qu'on est conscient de cette problématique-là, puis on veut participer, on veut contribuer justement à mettre en place ce qu'il faut, parce que c'est, tu sais, les semences, là, quand on en parle dans notre réseau, parce qu'il y a un réseau de semenciers au Québec, il y a 3 thématiques, en fait, qui reviennent toujours. C'est pas compliqué, c'est le chaos climatique. Puis oui, j'ai bien dit chaos et non changement, là, c'est chaos climatique, c'est alimentation, puis c'est agriculteur. C'est ça qui est les 3 axes, si on veut, de l'enjeu des semences, outre les jardins d'Écoumène, là, mais d'un point de vue plus global. Là, ouais.
Mais l'Écoumène, tes formats, c'est plus ces formats jardiniers. T'sais, quand je travaille avec mes élèves, puis on regarde des formats où on aimerait avoir des sachets de 500 graines, ben là, on le retrouve moins là, chez vous, je me trompe pas. Là.
Effectivement, on a retiré tous les plus gros formats parce qu'il y a un temps, on en faisait, mais on les a retirés parce qu'on a privilégié, tu sais, bon, c'est un choix stratégique d'entreprise là, de soutenir en fait plus les jardiniers que les producteurs maraîchers. Je pense qu'eux avaient d'autres fournisseurs, d'autres réseaux. Tu sais, Johnny Selected Seed, lui, c'est le contraire. Il a privilégié les maraîchers. Fait que, tu sais, bon, nous, on s'est positionné comme ça. Ben, c'est un petit peu plus aussi de l'échelle à laquelle on fait les choses. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on envisage là, tu sais, comme de grossir, si on veut, là, d'augmenter nos productions. Puis juste un autre petit aparté par rapport à ça, c'est que l'Écoumène, on développe un réseau semencier. On a 5 producteurs du Québec qui produisent des semences, ben, pas juste pour l'Écoumène, mais laquelle on soutient, qui qu'on développe avec eux, parce qu'il y a des entreprises au Québec qui ont fait des choix de produire des semences, mais de les vendre aux semenciers, plutôt que de développer un marché, tu sais, de détail. Fait qu'on est en train de contribuer, là, parce que c'est pas juste l'écoumène, c'est le réseau dans son ensemble, à justement là, développer cette filière-là des semences bio, pollinisation libre, local.
Hey, ça, c'est un super rêve. Tantôt, tu disais que vous étiez une jeune entreprise, étant donné que vous aviez 20 ans d'existence, mais t'es quand même un des pionniers ou un des plus vieux de la gang des semenciers que tu mentionnes, là. Les autres, il y en a de plus en plus, là, mais sont plus jeunes que toi, je me trompe pas, là.
Effectivement, il y a des... Ben, la plupart, oui, ils sont plus jeunes, mais bon, tu sais, dans le réseau semencier, il y a Tournesol, il y a du Portage, qui sont là quand même, la Société des plantes, Patrice, oui. Mais tu sais, ce qui est fascinant dans ce réseau-là, tu sais, on se voit pas comme des compétiteurs, on se voit plutôt comme de façon... on travaille de façon complémentaire. On a chacun nos forces, nos faiblesses à travers ça. Je pense que ce qui distingue le Jardin des Coumens, c'est que dès le départ de l'entreprise, quand j'ai parti cette entreprise-là il y a plus d'une vingtaine d'années, en fait, c'était en 2001, 99, 2000 plutôt, ben il y avait deux choses qui étaient importantes pour moi. C'était de mettre de façon paritaire, là, tu sais, sur le même, tu sais, comme deux axes, l'écologie puis l'économie. Alors, donc, même si, oui, l'écologie, c'est quand même ma motivation principale pour le monde du vivant, mais si j'avais vraiment l'intérêt de développer une entreprise à travers tout ça, et l'économie, pour moi, c'est un outil. On pourra en penser ce qu'on veut. L'économie, on en a besoin pour justement faire ces échanges-là, le commerce, tout ça. Fait que moi, ça me fait pas peur, la fiscalité, la comptabilité. Je te dis pas que j'aime ça, mais il faut en tenir compte. Puis c'est ça qui permet, en fait, à l'écoumène de se démarquer aussi, puis d'atteindre, en fait, cette croissance-là qu'on y souhaitait, là, dès le départ.
Ah, l'économie, le commerce, tout ça, c'est la meilleure façon, c'est le meilleur trait d'union entre nous tous, là. C'est pas péjoratif, hein.
Non, puis tu sais, des fois, je rencontre beaucoup de jeunes qui, justement, tu sais, ils le voient de façon péjorative. Mais ce qui est intéressant, où on est rendu en économie, on est loin des semences, tu vas me dire, mais c'est qu'il y a des nouveaux modèles économiques qui se mettent en place, tu sais, ce qu'on appelle l'économie circulaire, l'économie de fonctionnalité, de la coopération. Puis nous, on participe à ces projets-là, là. On a un projet pilote à lequel on travaille pour un an et demi, de mettre en place une nouvelle pratique d'économie, un modèle basé sur la coopération avec les fournisseurs, avec les clients. Alors, donc, c'est pas effectivement péjoratif. Mais soyez certains que l'écologie, c'est vraiment mon leitmotiv. Puis il faut justement inclure dans nos modèles économiques cette notion d'écologie-là.
À ton avis, là, Jean-François, le jardinier résidentiel que je suis, là, est-ce qu'il est dans la catégorie écologique? Est-ce que c'est 100% écologique qu'on se mette de plus en plus à jardiner à la maison?
Ben, moi, je pense que définitivement, là, c'est un choix qu'on doit faire. En fait, tu sais, moi, si tu veux, ce que je souhaite, c'est que les gens développent une passion, un intérêt. Puis ce que j'avais envie de transmettre à ces gens-là qui cultivent des légumes, ben, il faut qu'ils trouvent la bonne raison de le faire. C'est-à-dire, est-ce qu'on jardine pour les yeux? Est-ce qu'on jardine, tu sais, bon, pour les sens? Mais est-ce qu'on jardine aussi pour s'alimenter? Nous, on a compris que l'autonomie alimentaire, il y a quelque chose de pertinent à développer là. Mais à travers cette pratique du jardinage-là, moi, j'aimerais ça que les gens développent, en fait, une vision plus globale, plus holistique, si vous voulez, du jardinage. Moi, j'aime bien dire que je ne cultive pas des légumes. Je gère des écosystèmes. Donc, j'observe, en fait, mes plates-bandes, j'observe mon jardin, mais j'essaie d'inclure, en fait, toutes les dimensions que ça peut occuper, autant du vivant que du non-vivant. Hein, on dit du biotique ou du abiotique. Donc, le soleil, l'eau, le vent, le sol, comment il est en interaction, en fait, ou comment qui crée des conditions pour la culture de mes plantes. Il y a des plantes qu'on cultive qui ont une origine tropicale, d'autres désertiques. Alors, on crée des écosystèmes artificiels. Donc, on doit maîtriser l'art de gérer ces écosystèmes-là. Puis quand on arrive à ce stade-là, je dirais, tu sais, de la passion puis de l'intérêt, wow! Il y a tout un monde qui s'ouvre alentour de nous autres, tu sais, puis ça devient fascinant.
Ça change un peu de ma tante Georgiane qui, elle, jardinait pour survivre quand qu'elle était plus jeune. T'sais, on n'est plus tout à fait là non plus. Là.
Mais ça, c'est en croissance aussi. Par exemple, j'avais une discussion en fin de semaine là, sur un ami qui dit « Ah, je pense que je vais me mettre à jardiner. » Je commence à triper un peu survivalisme. Je dis « Oh, Colin, commence à jardiner puis survivaliste dans la même phrase. » Mais c'est de plus en plus présent.
Ben oui, les gens ont cette préoccupation-là, bien sûr. Je veux dire, ce qu'on voit dans les médias, tu sais, une augure comme plutôt mal. J'ai évoqué le chaos climatique, puis tu sais, tout ce qui se déroule. Mais tu sais, il faut rester... Le jardinage, c'est, malgré... En fait, l'autre bienfait du jardinage, c'est un effet psychologique. Ouais. C'est à la fois rassurant, parce que la pandémie, ce que ça m'a permis de découvrir, quand on a eu justement ces commandes de fous-là, ben c'était comme une assurance. Les gens, ils voulaient avoir des semences en se disant, ben s'il arrive de quoi...
Comme si c'était du papier cul, là.
Exact, en plein ça. Ça rentre d'un bord, puis ça sort de l'autre bord.
Ouais. Mais tu sais, ça dépend aussi. Tu vois, Pierre-Luc, avant, quand il jardinait, il déprimait. Tu sais, quand il voyait les résultats qu'il obtenait, là, lui, ça rentrait dedans. Mais là, à cette heure...
C'était pas bon pour ma santé mentale. C'était comme jouer au golf.
Mais là, ça va mieux, je pense. Tu sais, il s'en vient meilleur, parce que justement, il y a des intervenants à droite à gauche qui rendent la chose accessible, tu sais. C'était un peu la base d'idée de faire ce podcast-là, Jean-François. Nos amis de l'Académie potagère aussi font un travail de chef là, à ce niveau-là. Là, essayer d'amener ça à un autre niveau. Là. Il y a des émissions spécialisées aussi sur le sujet qu'on connaît bien. Ça, c'est du bonbon pour les gens qui veulent apprendre. Là.
Donc, on crée des écosystèmes. On est écologique, on est économique. Puis moi, j'aimerais ça aussi amener... le jardinage, je trouve que c'est une porte d'entrée pour la sensibilisation vers tout un peu plein d'autres choses, comme la consommation, le rapport à son voisin, à la personne qui fournit des services, qui te fournit des produits. Tu sais, on est vraiment habitué maintenant là, de consommer des choses qui sont faites l'autre bout du monde. Puis là, tranquillement, ben moi, personnellement, depuis que je jardine, je me rapproche de plus en plus de ma fermière de famille parce que là, j'ai des choses à lui dire, j'ai une passion commune envers elle. Fait que, ben bref, ça ouvre les portes de la sensibilisation à plein d'autres sujets.
Puis vous cultivez les mêmes hybrides, toi puis elle aussi, tu sais.
Parce que quoi?
Alors, je t'écœure, je laisse Jean-François parler.
Mais je fais du pouce sur ce que tu dis. Puis oui, même d'un point de vue social, parce qu'on a vu une certaine évolution. On parlait beaucoup des jardins communautaires. Puis ils sont en train de se transformer en jardins collectifs.
Ah ouais, hein, c'est bon.
Fait que, tu sais, donc ça nous amène aussi à considérer qu'on n'est plus en compétition, on est plutôt en collaboration. Tu sais, le jardinage peut nous amener aussi à faire des changements dans notre vie.
Ben oui, absolument. Puis j'avoue que c'est absurde. À chaque fois que j'ai passé à côté des jardins communautaires, je fais comme, hey, ils ont un 2x4, il y a un 4x8. Tu peux rien faire avec ça. Fait que j'imagine que quand tu parles de jardin communautaire, là, tu parles d'un jardin à plusieurs personnes plutôt que plein de petits jardins à une personne chaque.
Exactement. Tu sais, genre le petit jardin que quelqu'un entretient super bien, puis celui le voisin d'à côté qui n'a pas désherbé de l'été, puis ça crée beaucoup de tension. Le concept des jardins collectifs, ben moi, je trouve que c'est une belle évolution d'un point de vue social, tu sais, par l'entremise du jardinage. Un autre aspect aussi que j'adore, c'est la microbiologie. Autrefois, c'était vu un peu comme quelque chose qui était inaccessible. On parlait de bactéries, de mycorhizes, tout ça. Là, les gens, on était vraiment dans un mode, on met des engrais chimiques, on met des pesticides, tout ça. Mais tu sais, il y a un travail, en fait, fondamental sur lequel on doit travailler. C'est nous-mêmes en tant qu'individus. On doit être capable de faire confiance à la nature. On doit être capable de travailler avec la nature, puis en comprenant les cycles, en fait. Puis donc, en s'intéressant à ça, ben dans le jardin, ça nous permet après ça de retransposer cette attitude-là qu'on a face à nos plantes avec nous-mêmes. T'sais, c'est-à-dire le réflexe qu'on avait il y a une vingtaine d'années, on voyait un puceron, c'était d'aller le shooter pour l'éliminer. Mais tu sais, si on était capable de de transcender en fait cette confiance-là que s'il y a un puceron là, ben c'est la bouffe en fait des coccinelles, des bébés coccinelles. Donc il y a une coccinelle qui va venir pondre un œuf parce que elle sait que ses bébés ont besoin d'alimentation des pucerons. Donc on fait confiance à la nature, mais si on parvient à faire cette confiance-là dans nos écosystèmes du jardin, ben ça a un effet sur nous en tant qu'humains parce que ça va se manifester dans d'autres situations de notre vie. Alors tu sais, il y a des choses que le jardinage nous amène au-delà en fait de faire simplement pousser une tomate.
Ben, j'avais pas tort quand tu disais que t'étais comme Jésus de la semence. T'étais un peu preacher aussi, là. Non, mais c'est beau ce que tu dis. C'est une belle approche.
Ah, puis moi, je regarde toutes les coccinelles dans ma maison. Je me dis, ils n'ont pas compris son où les pucerons, là.
Oui, ça, c'est un fléau. C'est un fléau, mais c'est une autre histoire, là. Parce que c'est pas nos coccinelles indigènes qui sont dans les maisons. Les introductions.
Bon, bref. Ben, là, ça nous fait deux autres épisodes à faire avec toi, Jean-François, là. Parce que moi aussi, j'en ferais un, ces coccinelles, là. Mais il serait fâché, cet épisode-là.
Jean-François, écoute, je te ramène un peu terre à terre, là, mais le métier de semencier, c'est un métier, puis le métier de maraîcher, c'en est un autre. C'est-tu très complémentaire? Je serais curieux de t'entendre là-dessus.
Ben, t'es maraîcher, j'imagine, parce que tu fais pousser des légumes.
Tu sais, la différence, on veut de base, c'est que le maraîcher, lui, il va cultiver les fruits quand il arrive à maturité, mais nous autres, il faut amener les plantes à sénescence, donc à leur fin de vie utile pour récolter cette semence-là. Il y a des techniques, en fait, pour éviter justement qu'il y ait une contamination des gènes. Hein. On en a parlé au départ dans cette grande bibliothèque de gènes-là. Donc, on doit isoler les mêmes variétés. Le design du jardin peut sembler similaire. On a 3 hectares en production, très diversifiés. En fait, c'est notre choix parce que un semencier pourrait faire un choix aussi d'avoir juste une espèce, deux espèces, mais nous, on aime ça, la biodiversité. Alors, donc, il faut isoler ces variétés-là, il faut amener les plantes en fin de vie, ce qui comporte d'autres défis, en fait, surtout au niveau climatique, il faut préciser. Là.
Mais quel défi? Peux-tu nous donner un exemple, les défis supplémentaires ou différents du semencier?
Ben oui, tout à fait. En fait, pour le bénéfice de votre compréhension, quand on arrive en fin de saison, il y a deux grandes activités de conditionnement des semences. Donc, une fois qu'on arrive à cette étape-là, ben on doit retirer les porte-graines du jardin. Et il y a un type de conditionnement qu'on appelle à sec, puis un conditionnement humide. Donc, toutes les concombres, melons, poivrons, tomates, aubergines, eux, on fait ce qu'on appelle le conditionnement humide. Le conditionnement à sec, c'est principalement bon, les laitues, les oignons, les choux, les rutabagas. Le climat qu'on a, nous, au Québec, qu'on qualifie de froid et humide, lorsqu'on arrive en fin de saison vers octobre, septembre, cette humidité-là, en fait, favorise la présence d'un champignon qu'on appelle les saprophytes. Parce que les saprophytes, en fait, ils ont comme un rôle et fonction de dégrader les matières organiques mortes. Ce ne sont pas des pathogènes comme tels, ce sont des champignons qui ont ce rôle-là, qui sont omniprésents dans nos environnements. Donc, quand on arrive à la fin de vie de la plante, donc, mettons, on prend notre oignon, elle a fait une belle fleur, elle s'est épanouie, elle a été pollinisée, mais à la fin de son cycle, ben, les enveloppes vont sécher. Alors, c'est ce qu'on parle de matériel mort. Donc, si on les laisse à l'air libre, ben, ils viennent plein de ces champignons, ça profite-là, qui ça peut avoir une incidence sur la qualité des semences.
Une influence négative, donc, ton champignon, lui, tu le veux pas, toi?
Bien, dans un contexte conventionnel, hein, on utiliserait un fongicide. On appliquerait des fongicides pour limiter cette présence-là. Bien, nous, en fait, on a relevé le défi en créant des structures comme une serre, un abri, pour les isoler, en fait, de cette humidité-là. Donc, on parvient, sans usage de pesticides, à créer des bonnes conditions pour favoriser le mûrissement de toutes nos plantes qui ont un conditionnement sec.
On parle de grands tunnels, de tunnels chenets.
Exactement. On est en train de même construire un tunnel pro. Ça fait des tunnels chenets. Puis c'est des serres, ben, c'est des structures 28 pieds par 100 pieds, mais des tunnels, effectivement. On met un polytène, on les laisse là. Puis ça a changé, donc, si on veut, notre vie. Ouais.
tu préviens cette humidité en finalement en bloquant la pluie. C'est pas en le mettant dans un environnement contrôlé, fermé, où est-ce que tu déshumidifierais l'air, admettons. C'est juste la pluie.
Non, non, c'est ça exactement. Parce que les extrémités des serres sont ouvertes, là. L'air, elle circule, mais il n'y a pas d'eau directement. Ça fait que... donc, la différence entre le maraîcher et le semencier, c'est ça va?
Oui, bien, en fait, c'est ça. Toi, ce que tu veux, c'est la maturité de la graine et non la maturité du légume. Moi, je veux continuer à quelques trucs et astuces tant que... qu'à t'avoir, là, c'est pas tous les jours qu'on échange avec un semencier. Tantôt, tu nous as suggéré, si on voulait commencer à faire quelques croisements, d'y aller avec la tomate. Si quelqu'un veut commencer à faire ses propres semences, t'as-tu genre des sure shots, là, tu sais que ça, c'est gagnant puis que ça va fonctionner? Tu sais, des semences faciles à conserver?
Ben, écoute, je te dirais que dans un premier temps, il faut se fixer des objectifs. Tu sais. Puis là, je vais juste rectifier un petit peu ce que tu as dit. Tu sais, c'est pas nécessairement je pense que tu as dit de croiser.
Ouais, d'hybridation. Je ne veux pas rapport. Il écoute même pas. Moi aussi, je faisais comme, voyons, j'ai pas écouté, j'ai pas suivi, mais là, Jean-François, t'es d'accord avec moi, c'est PA qui est dans le champ, là. Il a pas parlé d'hybridation.
J'ai pas parlé du...
il a parlé de si tu veux commencer à conserver tes graines, tu commences comment? Tu commences avec la tomate.
OK, ça, j'aime ça comme question.
Bon, c'est bien meilleur que PA. Hein.
C'est ça qu'il a dit?
Ben ouais, il me semble.
Ah, OK, t'écoutes.
Bon, fait que bref, les tomates, c'est un bon choix pour commencer parce qu'il y a peu d'hybridations qui peuvent se faire entre les variétés. À la base, la tomate, c'est une fleur parfaite. On a l'organe mâle femelle. Souvent, la pollinisation se fait avant même. Fait qu'on est capable de maintenir les variétés qu'on a choisies. Alors, il y a beaucoup moins de brassage génétique à l'intérieur des plantes qui s'auto-pollinisent, comme la tomate, que, par exemple, un cucurbitacé. Si tu veux ramasser récolter des semences de cucurbitacé, donc des courges, comme, mettons, la courge à spaghetti, la délicata, les courgettes, ben, tu dois les isoler, sinon le résultat va être quelque chose de complètement différent de ce que tu avais cultivé l'année précédente. Donc, tomate, première des choses, c'est la plus facile. Pour ce qui est du reste, là, commencez tout simplement par observer les plantes que vous n'aurez pas récoltées au jardin. T'sais, si vous arrivez, mettons, à un stade où que vous dites « Waouh, mes haricots, ils sont rendus trop coriaces pour être mangés », ben laissez-les poursuivre leur cycle. Puis c'est vrai pour l'ensemble des plantes que vous cultivez au jardin, puis observez-les. On parle des fois de permaculture, on ne sait pas trop comment appliquer des fois certaines notions. Ben, les laitues qui auront monté en graines trop rapidement parce qu'il aurait fait trop chaud, vous n'avez pas assez arrosé, ben, laissez-les monter en graines, observez-les. Puis il y a certaines variétés qui sont tellement précoces que les graines qui vont tomber par elles-mêmes vont se remettre à pousser au sol l'année même.
Un exemple, s'il te plaît, de la coriandre qui va repousser tout de suite, non?
Oui, clairement. Les coriandres, oui, parce qu'un cycle de vie très court. Toutes les laitues qui ont tendance à monter en graines rapidement, comme les pommées,
Ouais. Laissez
monter ça en graines, laissez les semences même tomber au sol. Puis si cette variété-là, votre saison est assez longue, bien sûr, ben ils vont déjà commencer à pousser, puis ils vont vous faire des tapis de mesclun.
Ouais, c'est cool.
Les amarantes, la même chose, tu sais, vous pouvez, faites attention, là, il y en a qui vont dire, ouais, mais on va se faire envahir, tout dépendant de votre capacité de récolte, bien sûr, si vous laissez tout pousser ça, mais les laitues, les amarantes, toutes les, ce qu'on appelle les micro-pousses, beaucoup de brassicacées, le Mizuna qui est rendu trop avancé pour être mangé frais, laissez-les monter en graines, vous allez pouvoir vous approvisionner en fin de saison. Et souvent, vous allez avoir le même, surprise que moi, c'est qu'en fin de saison, ces cultures-là sont souvent encore plus savoureuses parce que lorsqu'on les récolte en fin de saison, le froid initie les sucres, puis souvent, ils sont plus goûteux, les radis moins piquants. Vos radis que vous êtes déçus parce qu'ils sont déjà montés en graines, laissez-les continuer dans un petit coin du jardin. Ils vont se faire des graines. À l'automne, laissez tout ça là. La neige va les aplatir au sol. Au printemps, vous allez avoir des nouveaux radis qui vont pousser tout seul.
Et au bon moment aussi, j'imagine que quand tu laisses la nature faire son œuvre, t'es sûr de le planter au bon moment. En tout cas, elle se plante tout seul au bon moment.
Exactement. Et ça va vous permettre d'observer. Parce que moi, je dis toujours, l'observation, c'est la principale qualité, en fait, du jardinier. Puis, observer, oui, mais interpréter l'observation. Haha, c'est ça la grande nuance aussi. Parce que c'est bien beau observer qu'il y a du soleil ou de la pluie, mais quel impact que ce soleil-là et la pluie ont sur vos légumes? Ce que je viens de vous raconter à propos des légumes qui poussent naturellement en fin de saison, qui développent les sucres, ben c'est de comprendre aussi. Bref, je veux pas trop m'attarder sur ces.
Ouais, mais ça c'est difficile, tu sais. Je veux dire, j'ai l'impression, en tout cas de mon côté, que c'est mieux d'avoir la connaissance avant, parce que tu sais, je sais pas. Je me souviens une fois, je voyais mes tomates à l'intérieur qui fripaient, qui se, tu sais, je disais, ah, c'est des tomates fripées. J'observe ça, tiens, ah, l'aroma est frippé. Non, c'est pire. Il me disait, ben non, man, c'est parce qu'ils ont soif, ou je sais pas trop, ils ont chaud. Je me souviens même pas de la réponse. Tu es un bon observateur, mais c'est en arrière des yeux que ça marche pas fort.
Ben Jean-François, lui, il est dans une matrice, tu sais, il voit tout ça, là, un peu comme dans le film, là, les colonnes de chiffres verts, là, puis il comprend, il interprète tout ça, là, tu sais, il est ailleurs, là. C'est, moi, c'est hallucinant. Moi, j'en ai une autre question, Pierre-Luc, pour Jean-François. J'ai acheté mes semences de l'écoumène, puis j'en ai trop, puis je veux les conserver pour les utiliser l'année suivante. Il y a tellement de spéculations là-dessus. Les gens ont plein d'opinions, mais la tienne, mettons, c'est quoi ton truc pour les conserver pour l'année prochaine, là, numéro un?
Bien, pour le jardinier qui a un volume raisonnable, un pot maçon dans un frigo, c'est parfait.
That's it. OK. Pas température...
Donc hermétique.
OK, cool.
Okay. Oui, parce que en fait, tu sais, bon, les conditions pour faire germer une graine, bon, humidité, température, c'est les deux principaux facteurs. Donc, à l'inverse, pour conserver nos semences, ben il faut isoler les semences de l'humidité et de la température. On dit aussi le facteur luminosité. Donc, ouais. Dans un frigo, ça peut être correct. Ou on prend nos pots maçons, on les met dans un autre bac. Mais bref, un contenant hermétique au frigo ou dans un endroit où les températures sont stables. Là, nous, à l'écoumène, on a un nouveau bâtiment, on a une vraie chambre froide où on contrôle, mais dans nos anciens bâtiments, on avait une chambre froide passive. Mais des fois, l'été, les températures pouvaient monter à 10, 12, mais tu sais, c'est très stable. Donc, mais éviter l'humidité, bien sûr, puis les fortes températures.
C'est quoi la meilleure température?
Ben nous, on est à 3-4 degrés, mais tu sais, le frigo, habituellement, c'est 5 degrés Celsius, fait que c'est bien correct à 5, là. Puis le jardinier, quand il aurait vraiment beaucoup, ben tu te recycles à la limite un vieux frigo que tu dédies pour ça. Bon, tu sais, il y en a qui vont dire, ouais, ben un autre frigo, dépense énergétique, mais bon, écoute, faut voir, là.
Ben, écoute, ça laisse de la place mettre des bières de microbrasserie à côté, là, tu sais, 5 degrés, c'est parfait.
Moi, j'aime ça. Moi, j'adore ça. Puis l'endroit à éviter, le cabanon.
Oui, j'imagine.
Faut que ça gèle, faut pas que ça gèle.
Ben, il fait froid, il fait chaud, c'est humide, c'est sec. Je vous dis, là, t'es autres toutes, là. Les plages, puis ça peut varier en dedans de 48 heures. Fait que c'est clair que là, tu viens vraiment là, de donner un coup de barre dans...
Moi, je la mets à côté de mon stock de piscine puis mon chlore. Ouais. Mais ça marche pas.
Hey, autre question. Moi, je continue, là, Jean-François. Hey, vous êtes tellement riche en informations puis en détails sur vos sachets de semences puis sur votre site web. Les gens, là, ils lisent-tu vraiment ça?
Ça, c'est une bitcherie envers moi. C'est même pas une question.
Moi, c'est toujours ça, je leur ai dit de faire. C'est écrit.
Écoute, c'est des discussions qu'on a à l'interne, tu sais, au niveau soit marketing, tout ça. Puis on vient toujours à la même conclusion. Le monde ne lise pas.
C'est malade.
Puis le pire, c'est que là, on s'est dit, on va changer les mots pour des dessins.
Oui.
Des pictogrammes. Puis là, ben il y en a qui ne comprennent pas le pictogramme, blablabla. Bla, bla. Oui, c'est un peu des fois déprimant, mais on a osé aller plus loin. Là, on a produit un calendrier de culture où on explique tout ça. Là, fait que la signification des pictogrammes, puis les informations, mais bon, regarde.
Ah oui, c'est vrai, quand on commande en ligne chez vous, on a le PDF, là, de puis je pense qu'il y a même deux régions, là, 3, 4, puis 5, 6.
Exactement, là, exactement. Ça, c'est la dimension temporelle, OK? C'est une partie, en fait, de ce que tu dois connaître, comprendre pour faire ton jardinage. Donc, ton calendrier, à quel moment... Puis, il y a l'autre partie, en fait, qui est la partie l'espace structurel où que là, tu dessines ton jardin. Bien là, il faut que tu tiennes compte de d'autres informations qui ne sont pas nécessairement dans le calendrier. Là, il faut que tu te réfères à un mentor ou, comme tantôt, tu évoquais le fait qu'il y a beaucoup de formations qui se donnent maintenant. Les urbains culteurs en font. Oui. Il y a l'Académie potagère, tout ça. Mais bref, en tant que semencier, on a compris que notre rôle, tu sais, c'était de partir les plants. Fait que notre calendrier, les pictogrammes, c'est ce qu'on essaie de proposer. Puis, juste comme ça, entre toi puis moi, on pense à un deuxième niveau. Là. On s'en vient, on se donne un an ou deux là, pour raffiner tout ça, pour aider, en fait, des jardiniers comme...
Comme Pierre-Luc, là.
Oui, c'est ça, exactement. En fait, l'important, c'est qu'ils sentent bon, intelligent, tu sais, puis qu'il y ait la satisfaction. On le dit, tu sais, toujours, t'sais, c'est le plaisir, là. Tu sais, si on sent qu'on a de la frustration ou...
Parce que vous devez recevoir des drôles de courriels, des fois. Vous devez avoir beaucoup de compliments, mais des fois, il y a du monde qui vous écrivent des drôles d'affaires.
Écoute, on veut le top 10.
Ah, c'est bon. En fait, je vais m'en sauver en disant c'est Guylaine qui s'occupe du service à la clientèle. Ouais. Moi, j'ai les comebacks de ça, là, mais... C'est elle, puis ouais, des fois, ça arrache la tête, là, tu sais, c'est comme... Mais c'est correct, on l'assume.
Ah, mais dans vos 5 à 7 de semenciers, vous devez rire du monde des fois un petit peu, là, tu sais, juste entre nous trois, là, tu sais.
Ben, en fait, tu sais, c'est pas... Ce qui nous... On trouve difficile, c'est quand on reçoit un courriel du genre « Toutes vos graines lèvent pas, puis on a acheté d'autres ailleurs, puis eux autres, ils levaient. » Tu sais, là, ouais. Ça, c'est frustrant. Parce que nous, ce qu'on a mis en place dès le départ, ce qu'on a compris que c'était quand même ça qui était l'enjeu, on fait des tests de germination pour les lots. Puis si tu savais tous les lots qu'on a en backup, qu'on garde, qu'on ne commercialise pas parce qu'on constate que les taux ne sont pas suffisamment élevés, la plus grande frustration, c'est les carottes. Les carottes, ça fait des années. Puis, il y a un problème. En fait, je ne vais pas rentrer dans trop de détails techniques, mais tout l'est du continent nord-américain, là, on part en fait du Québec, aller jusque dans le Maine, la carotte, tous les semenciers ont énormément de difficultés à produire cette semence-là. C'est frustrant. Nous, on a des taux de germination de 65 % habituellement. Puis, tu sais, on aimerait ça au moins avoir 80.
C'est pas grave. Moi, je suis pas capable de mettre une graine au centimètre. J'en mets tout le temps 18 à chaque pouce. Là, fait que, il peut dropper. Tant qu'à moi, là, il pourrait dropper ton taux de germination à 10 %, puis ça serait bien correct.
Ouais, non, mais c'est vrai. Ben, dis de même. Hein, je vais en parler à Guylaine, en tout cas.
En fait, vous êtes à Ruban? Non, je pense que vous n'avez pas ce produit-là. Hein.
Ben, écoute, non, on n'est pas rendu là pour de vrai. Mais ouais, ça, c'est très basique, mais c'est. Il y en a qui aiment ça, on se l'est déjà fait demander.
Ben là, moi, c'est ça que j'ai acheté. Là. J'ai acheté 3 sachets de l'écoumène en paquet, comme ça, là. Puis j'ai fait 15 pieds avec un sachet. Puis là, fait que là, tantôt, je suis allé acheter des rubans. Je me suis dit, Caroline, je suis trop myope, faut croire.
Il faut que tu achètes le petit semoir. On a un petit semoir qu'on vend, là.
Genre avec un entonnoir, là? Ouais, mais même, là, je trouve que... En tout cas, j'en échappe une couple. Ça
ben, c'est quand ta fête?
Hey, merci pour les trucs, les astuces, Jean-François. Je voulais en profiter un peu. J'étais vraiment curieux parce que c'est un autre métier que tu pratiques. Puis moi, ça m'impressionne beaucoup.
Moi, je finirais sur. C'était-tu ta conclusion, ça, PA? Moi, j'aurais une dernière question.
Non, c'était mon remerciement. J'aime bien la discussion qu'on a, je vous l'ai dit.
Ben, c'est sûr, on va le remercier à toutes les 10 minutes. On va en faire un autre 10 minutes. Ben, dans le fond, admettons là qu'on trace une courbe, là, puis qu'en haut, si la courbe est haute, là, c'est parce qu'il y a une très grande biodiversité dans le monde de la semence. Je parlais tantôt que dans les années 90, là, on a pogné un genre de fond du baril. On est où, là? Ça remonte? Ça continue de descendre? Est-ce qu'il y a de l'espoir ou non?
Bonne question, en fait, mais la réponse, il faut la diviser en deux, là, si on veut. Tu sais, c'est le monde du jardinage, on réappris à apprécier les variétés patrimoniales. Je pense que depuis presque les 20 dernières années, il y a des fêtes de semences, en fait, qui ont lieu dans les grandes villes du Québec, puis même des fois dans les petites campagnes.
Oui, à Victoriaville, on a ça.
Bon, c'est ça. Bon, Victo, Montréal, Québec, un peu partout. Puis les gens viennent nous voir, ils aiment ça, on aime ça, on jase avec eux autres parce qu'on a remonté une pente, parce que les gens avaient délaissé les variétés patrimoniales parce que c'était pas de bonne qualité, ça germait pas. Ben, tu sais, dans notre réseau, on s'est regardé dans le banc des yeux puis on s'est dit, « Hey, guys, des tests de germination, c'est essentiel si tu veux vendre des semences. » Parce que il y a pas de loi qui encadre ça. Tu sais, demain matin, tu as envie de vendre des semences, vends-en. Puis, tu sais, bon, mettez des noms latins. On aime ça, des noms latins. On veut savoir qu'est-ce qu'on plante. On a essayé de se donner un certain standard, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un peu plus de crédibilité auprès des jardiniers. l'autre domaine, ben, tu sais, bon, il y a les fermes de panier bio qui, eux autres, les gens, c'est leur métier, puis ils aiment bien travailler ou cultiver des plantes qu'ils connaissent bien, qui ont une certaine uniformité puis une standardisation, puis je respecte ça, puis ça va, ça, c'est comme l'intermédiaire. Mais où on doit s'inquiéter vraiment, pour répondre à ta question, c'est dans le monde industriel. Écoute, il y a à peine 10 ans, on disait qu'il y avait 6 consortiums mondiaux qui partageaient 90% des semences. Là, on parle du maïs, des tomates, du soya, je veux dire, les grandes cultures. Aujourd'hui, on est rendu à 3, là. T'sais, il y a Monsanto, Bayer's, il y a Synagra, Syngenta, c'est-à-dire, puis Chinese, je sais plus quoi, qui se partagent en fait presque 70% de la production mondiale de semences. Ça, c'est inquiétant, d'autant plus que ce qu'ils utilisent comme génétique, moi, je pense que c'est une question de temps avant qu'on voit les effets négatifs, en fait, d'une agriculture standardisée, uniformisée, agro-business, là, tu sais.
Ben, on dirait que ce sujet-là va trouver, cette cause-là va trouver son salut par le petit jardinier qui, lui, en veut une tomate funky, puis différente, puis une carotte mauve, puis blanche, puis...
Ben, écoute, moi, je répétais souvent parce que, tu sais, bon, j'ai eu l'honneur et le plaisir de donner des cours de permaculture, éthique, puis je leur disais tout le temps, quand vous allez constater que dans vos épiceries, il y a des tablettes vont se vider, commencez à vous questionner, justement, par cette notion d'autonomie alimentaire-là. La pandémie, ça nous a donné juste un petit aperçu, justement, des tablettes qui se sont vidées.
Oui, ben moi, je me suis mis à faire pousser du papier cul depuis ce temps-là.
T'as recyclé tes feuilles que tu mets dans ta déchiqueteuse à papier, c'est ça?
C'est ça. Je me suis avec des enveloppes de cerises de terre.
Je te suggère la molène. Hein?
J'ai des doigts de fée.
On vend de la molène, OK? Puis ça, là, ça a du poil, en fait. Ça rend l'exercice très agréable. Là.
J'imagine que tes fesses sentent bon après.
J'ai pas la souplesse pour arriver à valider ce détail-là, malheureusement.
La sauge aussi, ça a l'air doux. Je pense qu'on pourrait se faire des...
Oui, mais la feuille est trop petite.
Ouais. Ben moi, j'ai un petit cul.
Si, bois, les gars. Une chance qu'on s'aime, tu sais.
Cet épisode était une présentation de notre partenaire principal, le Réseau des fermières et fermiers de famille, qui est un réseau solidaire de producteurs maraîchers et de consommateurs soucieux de leur alimentation et de l'environnement. Merci au RFF de porter cette cause-là qui est tellement importante. C'est un geste de développement durable qui dure depuis déjà 25 ans. Merci d'exister et de faire partie de la solution.
Et merci à notre partenaire, le Fertifras, un fertilisant organique tout usage, 100% fumier d'insectes, 100% biologique et 100% québécois.